Maintenant, un bon bois de casse.
Maintenant, un bon bois de casse.
Maintenant, un bon bois de casse.
Olivier Grégoire, vous êtes un des organisateurs du festival Je t'aime. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comment est-ce que ça se passe jusqu'à présent? Parce que nous sommes dimanche après-midi.
Alors, eh bien là, il est quelle heure? Il est 16h. Ça se passe bien. Il y a juste ce qu'il faut comme monde, ni trop, ni trop peu. Ouais. On lui a eu un petit peu peur à midi et demi parce qu'il y a eu un creux. Les gens mangeaient le gigot du dimanche. Et ce matin, il y avait énormément de moins de 6 ans. Et là, cet après-midi, il y a des familles vraiment, je dirais, de 5 à... Oui, 99 ans, et c'est très très chouette parce que c'est vraiment ce public-là qu'on vise.
Alors un festival comme aujourd'hui, quel est finalement le but d'un festival qui s'appelle Je t'aime?
Alors ce festival, juste un petit historique, c'est qu'il a été initié par IAPACA, donc un service de lutte contre la maltraitance à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc eux en fait mettent l'accent sur l'importance du jeu dans le lien parent-enfant. Et donc nous à la COCOF, on s'est associé à cette démarche-là pour faire un aboutissement festif, je dirais, de leur grande campagne de sensibilisation. Et donc, le but, c'est vraiment, vraiment, vraiment de faire jouer les enfants avec les parents.
Alors, nous sommes au Botanique, à Bruxelles. Il y a énormément de bibliothèques qui viennent de toute la communauté française de Belgique. Ça veut dire qu'en fait, c'est un événement qui est plutôt centré sur la capitale, mais qui ne rapporte rien pour eux, on va dire.
Alors ici, en fait, à Bruxelles, on est pratiquement que des ludothèques bruxelloises, à part Marchand Famène qui est venu, mais ça c'est historique parce qu'il venait déjà l'année dernière. En fait, le but de Je t'aime, IAPACA voudrait décentraliser tous les événements Je t'aime pour qu'il y ait des petits Je t'aime un petit peu partout en Belgique et que tout se passe le même jour. Et donc à ce moment-là, chaque région, chaque province, je ne sais pas, aurait son Je t'aime avec les ludothèques locales. Donc ici, on a une quinzaine de ludothèques bruxelloises, la région bruxelloise qui sont venues. Et donc on fait la promotion du jeu en général, du secteur ludothèque en général et du secteur ludothèque à Bruxelles, en région bruxelloise, quoi, c'est clair.
Alors, le adjoint au Festival Je t'aime, il y a aussi l'aboutissement du label, enfin pas encore l'aboutissement du label Ludo, mais...
Le lancement, disons, ouais. Voilà. Un peu le lancement.
Et donc le label Ludo, c'est quoi finalement?
Alors le label Ludo, l'idée en fait était de faire participer le public à l'élection du meilleur jeu familial de l'année en Belgique, du côté francophone en tout cas. Donc le label Ludo existe depuis 2004, mais sous sa forme publique depuis 2010, donc c'est la troisième année. L'idée, c'est qu'il y a 5 jeux finalistes qui ont été déterminés lors d'un week-end jeu fin août. Et ces 5 jeux vont tourner pendant 3 mois en ludothèque. Et on va faire jouer le public, le grand public, je dirais, le public des ludothèques à ces jeux qui peuvent apprécier les jeux à l'aide d'un bulletin qu'ils vont remettre. Donc il y a des cotes et tout. Et ensuite, on compile tout ça, on additionne tout ça dans un beau tableau Excel. Et au bout d'à peu près 2000-2500 votes, le jeu qui a la meilleure note sera élu meilleur jeu familial de l'année.
Après, alors les jeux qui sont présentés, on peut les repasser en revue vite fait. Donc on a Indigo de Rainer Knizia, on a Rumble in the House d'Olivier Safre, donc premier jeu édité par une édition belge l'année passée. C'est assez sympa qu'on le retrouve là-dedans. Il y a Shipland qui est un jeu italien, il y a Takenoko qui est un jeu d'un auteur français, et il y a Tea Time qui est un jeu d'Emanuele Ornella qui est un auteur italien si je ne me trompe. Comment vous avez fait de la sélection de ce jeu-là?
Alors en fait, disons qu'au week-end, le fameux Ludo Week-end fin août, il y avait une soixantaine de participants, il y avait une soixantaine de jeux présentés. On a déjà fait jouer tous ces 60 jeux aux participants qui ont déjà fait une première sélection, aussi en remettant les petits bulletins de vote. Et ensuite, il y a des critères, évidemment. Il faut que ce soit un jeu qui soit joué rapidement, expliqué rapidement, qui soit accessible à partir de 8 ans déjà. Et donc, ça, c'est des critères objectifs. On a dû faire une autre sélection par rapport à ça. Sinon, ensuite, c'est vraiment le public du Ludo Weekend qui a décidé, hein, qui est déjà un panel, oui. Un panel familial, je dirais.
Bon, on le sait, avec un prix prestigieux comme le Spiel des Jahres, il y a des familles qui n'achètent qu'un seul jeu par an, et c'est le Spiel. Est-ce que c'est la volonté d'un label Ludo?
Alors, la volonté d'un label Ludo, c'est sûr que c'est bon d'élire un meilleur jeu, on verra bien ce qu'il donne. C'est quand même un prix du public, et c'est un prix qui est organisé par les services publics. Donc nous, évidemment, le côté commercial, c'est pas vraiment notre tasse de thé. Nous, ce qui est très important, et la première chose qui est importante, c'est un outil d'animation pour les ludothèques. C'est vraiment un outil d'animation et de dynamisation des ludothèques. Il y a 40 ludothèques qui participent, qui achètent ces 5 jeux et qui les font jouer parce que c'est des jeux de qualité. Donc voilà, nous, c'est ça vraiment qui nous importe, c'est de faire jouer les gens à des jeux de qualité. Après, évidemment, il y a un meilleur jeu, mais les meilleurs jeux, il y en a des centaines. C'est plus, je dirais, pour le fun et pour le jeu, justement. Mais vraiment, pour nous, ce qui est important, c'est que c'est un outil de sensibilisation et un outil d'animation.
C'est quoi ce jeu, en fait?
C'est le jeu des Mexicains.
Mais qu'est-ce que c'est?
Alors, le principe, c'est que vous avez en fait des Mexicains qui sont représentés vus du dessus. Donc on ne voit que la forme du chapeau. Et ces Mexicains font des actions. D'accord. Et il faut essayer de deviner quelles sont les actions.
Okay.
Et ces actions, évidemment, sont choisies pour le thème aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est tous le thème de la famille, du jeu, du plaisir.
C'est des Mexicains vus de haut en train de jouer.
C'est ça.
Ça, c'est innovant. Et donc, le but, c'est quoi, finalement ?
Donc, le but, c'est de jouer en famille, ensemble, pour essayer de deviner quelles sont les actions réalisées par les Mexicains, de remplir un petit questionnaire et d'écrire les réponses. Et il y a deux récompenses qui seront distribuées après ça. Donc, le prix des meilleures réponses, le meilleur nombre de bonnes réponses, et aussi le prix de l'originalité.
Parce qu'on peut inventer les réponses.
Exactement, parce qu'en fait, il y a des faciles, des moyens, des difficiles, et des vraiment très tordus. Et donc, il y en a qui sont vraiment très difficiles à trouver. Et donc, ça pousse à justement l'imagination et à créer ensemble quelque chose de plausible. Et donc, chouette, quoi.
D'accord. Et donc, vous faites partie de la COCO, vous faites partie de l'organisation du festival.
C'est ça.
Et donc, quel est le but d'un festival comme celui-là ?
Je pense que pour moi, en tout cas, le but d'un festival comme celui-là, c'est principalement de promouvoir le jeu en famille. Mmh. Donc, vraiment de jouer ensemble, parce que souvent, les parents laissent les enfants jouer entre eux. Mmh. Alors qu'ici, le but, c'est vraiment que les parents jouent avec les enfants et de retrouver vraiment une cohésion familiale. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, les adultes d'aujourd'hui veulent faire tout trop vite, trop vite, et ont peut-être d'autres préoccupations que voilà, le jeu. C'est vrai que c'est un petit peu illusoire pour l'instant. On pousse beaucoup les enfants à la performance et un petit peu moins... au plaisir, ou si oui, on le pousse, mais à ce moment-là, on ne veut pas s'impliquer. D'accord. Et moi, j'ai un peu plus l'impression que c'est l'ère actuelle, parce que quand moi j'étais petite, ce n'était pas le cas. Donc,
On a moins tendance à venir aux jeux de société. Est-ce qu'on n'a pas envie de dire que c'est un peu ringard, tout ça, de venir jouer à des choses comme ça ?
Mais non, justement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, ça revient. Et on a justement envie de revenir à quelque chose de plus simple et oublier justement tout ce qui est technologie, etc. Et de revenir à quelque chose du basique et du simple et justement au durable.
Merci Laura Van Lathem.
Je vous en prie.
Bon festival.
Merci.
Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Vous êtes au festival Je t'aime. Je peux vous demander ce qui vous intéresse pour être... Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici ?
Mais pour jouer avec les enfants, passer une bonne après-midi, et puis il y en a pour tous les âges, et c'est ça qui est bien. Donc on est en train d'essayer de deviner ce que font les Mexicains pour le moment.
Ah. Et donc tu as déjà trouvé des exemples ?
Oui, j'en suis au 19e et moi en reste plus que 2.
Est-ce que tu en as inventé certains, ou tu dis ça ce serait rigolo de mettre ça ?
Pas encore, mais je crois qu'ici je dois en inventer un, donc je vais le faire.
Eh bien, bon jeu alors, bon amusement.
Merci beaucoup.
Vous êtes de la ludothèque de Marchand-Famène. Dites-moi, c'est un peu loin de Bruxelles pour faire un festival Je t'aime comme ça ?
Ben oui, tout à fait, mais on est venu quand même.
Et pourquoi ?
Parce qu'on devait être là, je crois, pour présenter, dire qu'il y avait des choses qui se passaient là-bas aussi, donc voilà, on est là.
Et le public réagit comment par rapport à ces... Là, on est sur une journée, l'année passée, c'était sur 2 jours, vous étiez là aussi ?
L'année passée, j'étais pas là, moi. Par contre, ma collègue, elle y était. Mais voilà, il n'y a pas de retombée vraiment pour nous à Marche, mais voilà.
La volonté, c'est quoi ? C'est finalement de partager quelque chose, si vous faites tout ça.
Montrer qu'on existe aussi, il n'y a pas que les ludothèques de Bruxelles qui sont présentes. Et voilà, surtout ça, je pense, le but premier. Et
qu'est-ce que vous démontrez ici ? Qu'est-ce que vous montrez comme jeu ?
Les jeux géants, donc les jeux en grand format.
Et qu'est-ce qu'on a justement ?
Ici, pardon ?
Qu'est-ce qu'on a comme jeu ?
Donc les gigamiques, le Quarto, le Quixo, voilà. Et les jeux géants aussi qui sont à l'entrée, vraiment juste à l'entrée, c'est de Marche aussi.
Et donc, il y a beaucoup de gens ici qui arrivent en dilettante, en disant, tiens, on va voir un peu ce qu'il y a. Comment est-ce que vous les amenez à des jeux, des gros jeux comme ça ?
Ça ne se découvre pas par eux-mêmes aussi, en fait. Donc, ils voient les jeux, c'est surdimensionné. Donc, ils sont peut-être plus curieux aussi qu'un petit jeu de plateau en petit format. Donc, je pense que voilà, donc, on le voit aussi dans leur regard qu'ils veulent y jouer. Donc,
Alors ici, on est au Botanique, justement à Bruxelles. J'ai dit, vous venez de Marchand-Famène. Ça ne vous donne pas envie de créer un événement comme celui-là de votre côté ?
On le fait déjà. Hein.
Ah, et ça s'appelle ? C'est déjà...
Non, il n'y a pas de nom. On n'a pas encore trouvé de nom, je pense, précis pour ça. Mais on les sort très souvent, hein, donc ces jeux-là. Donc activité, le salon des sports, oui, on les sort. Donc
c'est typiquement le genre d'activité que vous faites. Là, en fait, vous êtes tous ensemble pour faire la même chose.
Tout à fait.
Okay. Merci beaucoup.
De rien, avec plaisir.
Oh là 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 là, tu y es presque là. Bravo mon garçon.
Thibaut Quintan, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Je vois que tu as un joli badge Let's Play Together. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu fais ici dans le festival Je t'aime ?
Ben oui, cette année, on a développé deux ateliers. Un atelier créatif, comme l'année dernière. Hein, je récup et je crée.
Voilà, donc là, c'est une table avec, on va dire, énormément de déchets pour être un petit peu provocateur.
Plus qu'énormément, c'est du 100% déchets. Même la colle est naturelle. Tout est vraiment de la récup à 200%, je dirais. Et effectivement, voilà, les enfants peuvent découvrir les jeux du monde et les réaliser par eux-mêmes et rentrer avec chez eux. Et puis se rendre compte surtout que le jeu peut ne rien coûter.
Voilà, parce qu'effectivement, ça vient des poubelles.
Ça vient des poubelles. Bon, je vous rassure, ce sont des poubelles propres.
Oui, bien sûr.
Mais ça vient des poubelles, effectivement. Ça vient surtout aussi, je veux vous montrer qu'avec tout ce qu'on a, ce sont toutes des choses qu'on trouve à la maison. Des bouchons, des capsules, des vieux tissus, un morceau de carton, des bouteilles. Vraiment des choses qu'il ne faut pas aller très loin dans les poubelles particulières pour les trouver. Et puis voilà. Et l'objectif aussi, c'est que... En famille, on réalise le bricolage. Voilà. Papa, maman aident sur certaines choses, apportent une idée. Et donc, c'est une construction coopérative.
C'est comme ça un peu que naissent les jeux traditionnels que vous présentez ici.
Absolument. En fait, le lien est évident entre les deux ateliers, puisque l'atelier Jeux du Monde ici propose un voyage dans le monde à travers presque une vingtaine de jeux d'un peu partout. Et l'objectif étant vraiment de faire le lien entre les deux, et donc soit que la création du jeu ramène vers le stand Jeux du Monde pour se dire tiens, comment j'y joue maintenant, voilà. Ou inversement, tiens, tu as bien aimé ce jeu-ci, et bien va le créer toi-même à l'atelier juste à côté, tu pourras rentrer avec à la maison.
Voilà. Alors, mais typiquement, quels sont deux, trois exemples de jeux traditionnels qu'on retrouve ici en fonction de leur origine aussi?
Oui, un jeu ici. On voit la famille qui joue là à 4, Pachisi, qui est la version indienne de notre course des chevaux, dont les dés en fait sont remplacés par des coquillages et avec un développement un petit peu plus stratégique. Un jeu qu'on retrouve encore en Inde aujourd'hui, à côté du Karom notamment, qui est le billard indien bien connu. Un autre jeu très traditionnel en Indonésie, qui est très particulier, un jeu à deux joueurs qui s'appelle Surakarta, que tu vois ici avec les différentes boucles de couleurs, où c'est un jeu de prise, mais de prise assez stratégique, puisqu'il faut obligatoirement pouvoir compléter une boucle pour pouvoir attraper un autre joueur, et donc pouvoir aussi protéger ses propres pions d'une contre-attaque.
D'accord.
Donc un petit jeu, voilà, vraiment jeu à deux, mais très typique. Et puis on a quand même ici aussi un beau stand sur l'Afrique, orienté avec trois différents types de jeux de la famille des Mancala, avec un Nikibugu, qui est une spécificité du Burundi. En plus, celui-là, je suis très content de le montrer parce qu'il a été fait par un petit artisan burundais, parce qu'une amie qui vit là-bas. Et donc, c'est l'occasion de leur partager un petit peu la culture ludique burundaise à travers ce jeu, qui est en fait donc dans la famille des Mancala. Merci à vous, bravo. Qui est en fait une version un peu plus complexe quand même que l'Awale, la plupart connaissent l'Awale.
Il s'agit d'une planche avec des alvéoles et des graines dedans, mais en fait en fonction des régions, on se retrouve avec des règles totalement différentes.
Des règles totalement différentes et un nombre d'alvéoles totalement différents aussi, puisqu'on voit l'Ikibugu qui est ici sur 32, on a un Awale qui est sur 16 et on a un Beki qui est uniquement sur 8. Donc ce sont des versions très différentes de l'un à l'autre, avec même un nombre de graines différentes, mais dont le principe de base est le même. Un jeu basé sur cette culture du semis et de la récolte. Donc voilà, très très traditionnel sur toute l'Afrique, principalement de l'Ouest, mais bien répandu. Puis en restant dans l'Afrique, évidemment, le Taola, la version du backgammon jouée dans tout le Maghreb et le Moyen-Orient. Et puis l'Asie quand même, j'ai parlé du Surakarta, mais l'Asie avec un Sho, qui est un jeu traditionnel tibétain, qui est en fait un petit jeu assez magique aussi, mais qui est une version tout simplement des courses de chevaux aussi, mais en cercle, où les coquillages que tu vois autour de ce petit coussin et de ce petit socle en bois sont les cases à remplir et à parcourir par les chevaux. Ces chevaux en fait sont des pièces de différentes tailles et de différentes couleurs, et en fait c'est assez impressionnant, c'est de voir ces tibétains jouer, parce qu'il y a des incantations, ils ont des deux petits dés qu'ils mettent dans cette petite boîte en bois, et ils le font tourner très très vite avec leurs mains dessus, et ils font toute une série d'incantations et ils le retournent très très fort sur le coussin de manière assez forte, et surprise aussi et partage, c'est que ce n'est jamais celui qui joue le dé, qui joue le pot, qui va retourner, soulever, c'est le suivant. même si le nombre de dés, en fait, et là c'est assez particulier par rapport à ce jeu-là, c'est que un jeté de dés d'un joueur sert pour tous les joueurs.
Ah oui.
Donc chacun va pouvoir s'en servir, mais de manière différente, en décomposant les compositions de manière différente.
Là, effectivement, c'est...
Et donc voilà, c'est une variante assez intéressante et très, très particulière.
Moins attendue.
Beaucoup moins attendue, beaucoup moins attendue.
Encore un petit dernier.
Et alors, un petit dernier qui est le yoté, si je reviens sur l'Afrique aussi, un yoté qui est le jeu de dames sénégalais. Là, assez particulier aussi parce que, à la différence du jeu de dames, tous les pions sont à l'extérieur du jeu au départ et on les rentre au moment où on veut, quand on veut. On n'est pas obligé de tous les rentrer.
Où on veut.
Et où on veut, absolument. Donc voilà, c'est assez différent, mais le principe de prise est le même.
Ok, super. Et donc, on l'a dit, il y a une table avec plein de matériel de récupération qui montre qu'on peut faire des jeux traditionnels. Finalement, quand on voit ici, comme c'est organisé en corrélation avec le label Ludo, par exemple, où on voit vraiment des jeux de société modernes avec des règles super élaborées, il y a quand même un monde entre un jeu traditionnel comme celui-là et un jeu d'éditeur avec énormément de couleurs et des pions découpés en bois extraordinaires. Donc, où est le gap ? Qu'est-ce qu'on montre ici ? Allez, il y a un chaînon quelque part qui manque.
Il y a un chaînon qui manque, oui et non. En même temps, c'est aussi de dire qu'on joue partout, que bon, on est dans une culture effectivement ludique en Occident où on a les moyens de développer des boîtes, de travailler, de donner du temps à des auteurs pour créer ces jeux, etc. On est dans d'autres pays, sur quelques jeux plus traditionnels qui perdurent à travers les âges, qui restent, qui se passent de génération en génération et à travers une culture. Où forcément, alors ce qu'on remarque aussi très particulier, tu peux le constater, c'est tout, quasi tout, un 95% du matériel est en matière naturelle, ou en tout cas les matières utilisées sur place, même jusqu'au tissu. Là, l'exemple du petit échec mongol est fait en peau de mouton. Vraiment tout, les os du tigal, ce petit jeu mongol, voilà, ce sont...
Des os de chèvre.
Des os de chèvre, absolument, ouais, les chevilles. Donc, évidemment, il y a un gap, comme tu dis, entre effectivement la richesse de développement créatif de l'Occident et ce qu'on permet à travers notre culture ludique et celle qui est beaucoup plus basique, quelque part, peut-être à ce niveau-là, d'autres cultures. Mais par contre, je trouve que le pont est énorme entre le fait de pouvoir partager ces cultures ludiques et le fait qu'on joue partout. Et partout, il y a une culture du jeu. Je fais juste le pont sur le voyage que j'ai fait par rapport au jeu. Je suis parti avec des jeux de l'Occident. J'ai joué avec des jeux de l'Occident là-bas. Ça joue.
Oui, bien sûr.
Ça joue. Ouais, donc c'est une question, je pense, vraiment de culture, de moyens et de mise à disposition des jeux.
Ouais. Et tous ces voyages-là, on peut les retrouver sur lesplaytogether.be. Voilà.
Merci Nicolas.
Merci Thibault. Bonjour monsieur, vous êtes au festival Je t'aime. Je peux vous demander ce que vous venez faire ici ? Quel est l'intérêt que vous portez à ce genre d'événement ?
Alors je viens pour faire découvrir le jeu à ma famille, à mes enfants, à ma compagne, et puis découvrir d'autres aspects que celui qu'on a à la maison. Voir d'autres choses, voir des jeux en grande dimension, voir des jeux qu'on peut toucher plus que regarder, avec des belles couleurs et des choses qui sont faites par les gens. Et puis rencontrer des gens.
Et vous êtes joueur déjà chez vous ?
Oui, tout à fait. Malheureusement, pour mon grand désarroi, ma femme pas trop. Donc, je joue avec les autres.
Je vois que Fiston est là et il accroche bien à ce genre d'événement-là.
Oui, à partir du moment où il peut manipuler, toucher des choses, à partir du moment où lui-même peut être en activité et bouger. Mais oui, à ce moment-là, il accroche plus. Maintenant, lui demander de rester assis et de pas trop bouger pendant 10 minutes, c'est un calvaire pour lui comme pour nous.
Bon jeu.
Merci.
Alors, jouer aux jeux de société, c'est une chose, mais on n'a pas toujours tous ses sens pour pouvoir jouer aux jeux de société. Et Monsieur Laurent Verbruggen de la Ludo de l'ONA, il va nous expliquer exactement ce que c'est. Et bien, peut nous parler justement de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut adapter peut-être aux jeux de société pour jouer avec des personnes atteintes de cécité. Bonjour Laurent.
Bonjour, bonjour. Donc en effet, on peut travailler sur des jeux existants et les adapter pour les rendre accessibles à la fois aux personnes malvoyantes et non-voyantes. Et ça passe avant tout par, première info, la stabilité du jeu, parce que quand quelqu'un touche un jeu, tous les pions se déplacent et il n'y a plus de possibilité de jouer après. Au niveau de l'adaptation, on peut travailler aussi sur le contraste, la taille des éléments et les matières, bien sûr, pour justement créer une différence au niveau du toucher entre les éléments de jeu.
D'accord. Là, je vois par exemple, il y a le fameux verger, hein, donc fameux jeu classique coopératif où on essaie d'aller cueillir des fruits dans les arbres avant que le corbeau les mange tous, en fait. Ouais. Là, c'est une version en bois où on voit effectivement des textures et c'est typiquement un jeu que vous utilisez avec des personnes atteintes de cécité ?
Absolument. Alors, pour nous, le jeu est avant tout un vecteur d'intégration, ce qui veut dire que même si on y travaille pour justement rendre le jeu accessible, on essaie aussi de le garder attractif pour les personnes voyantes, pour justement donner envie à tout le monde de jouer avec la version adaptée du jeu que nous on propose. Alors dans ce cas-ci, c'est vrai que pour la stabilité du jeu, on a travaillé avec des encastrements ou des velcros pour tenir les fruits sur les arbres. Et par rapport à la version originale du jeu, par exemple pour le corbeau, on a enfermé le corbeau dans une cage et on enlève systématiquement un barreau quand on tombe malencontreusement sur la face du dé qui correspond au corbeau.
Ça veut dire qu'on peut mettre sa main et qu'on peut voir s'il est presque libre ou pas.
Exactement. Donc le corbeau est entièrement réalisé en relief en dessous avec son pelage, tous les attributs du corbeau, son bec et ses pattes griffues. Et donc on peut au fur et à mesure découvrir le corbeau et on sait très bien compter grâce aux encoches qui restent sur la cage combien de barreaux ont déjà été retirés ou éventuellement compter ceux qui restent.
Alors on parlait de facteur d'intégration, effectivement ça permet de replacer un peu la personne aveugle au sein de sa famille, elle peut jouer aussi avec les voyants de sa famille.
Absolument. Donc en fait, comme toute ludothèque, on organise un système de prêt. Le prêt sert avant tout à des enfants déficients visuels de jouer avec sa famille, mais aussi parfois à des parents déficients visuels d'avoir des jeux adaptés qui leur permettent à eux de jouer avec leur enfant voyant. Ça se passe dans les deux sens. Autrement, nous utilisons aussi nos jeux beaucoup dans le secteur de l'éducation et on a pas mal de personnel de l'éducation, que ce soit institutrice, puéricultrice, qui utilisent notre matériel soit pour faire des animations à thème au sein de leur classe, soit au contraire simplement parce qu'elles trouvent justement nos jeux plus attractifs pour la petite enfance, ils utilisent ce matériel avec leur classe. Nous avons ici des poupées qui ont été réalisées aussi au sein de la ludothèque, qui présentent un petit veston avec 6 boutons. Alors tout le monde nous dit « Ah, c'est magnifique, ce sont des poupées, et à la fois, on peut compter. » Et bien sûr, dans notre cas, les 6 points, les 6 boutons de la veste correspondent à la cellule braille. Et c'est du matériel qu'on utilise pour l'apprentissage du pré-braille avec les enfants en âge de pré-primaire, jusqu'à l'âge de 5-6 ans. Et tout d'abord, on leur apprend d'abord à bien distinguer la gauche de la droite, le haut du bas. Quand ils ont une bonne conception de l'image de leur corps et une bonne conception de la disposition des boutons, eh bien, on peut commencer à donner du sens aux boutons. Et par exemple, si on ne met que le bouton tout en haut à gauche, eh bien, on a la lettre A.
D'accord. Ouais. Donc ça, effectivement, c'est une manière ludique d'apprendre l'alphabet.
Absolument, d'apprendre l'alphabet braille. Mais c'est à la fois quelque chose que l'enfant peut ramener chez lui, prendre dans son lit. Et donc, on ne distingue pas l'apprentissage du ludique ou du plaisir. Oui, tout ça forme un tout.
Oui, absolument. Merci Laurent Verbruggen.
Avec grand plaisir.
Alors, le festival Je t'aime, c'est la deuxième année. Est-ce que ça va être Je t'aime pour très longtemps ?
Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut toujours qu'on grandisse peut-être pour survivre. On va voir. Là, ça se passe vraiment bien. On a un peu grandi par rapport à l'année dernière. On va voir si Je t'aime et sème un peu toutes ces éditions dans toute la Belgique. On va voir ce qu'on va faire. D'autres partenariats sont déjà discutés. Je crois qu'il n'y a pas qu'à être très content, que nous aussi. C'est énormément de boulot, mais c'est extrêmement motivant, franchement. Et donc, je pense qu'on va vraiment le refaire parce que... Allez, on va être prétentieux, mais je pense que c'est réussi.
Ah bah oui, en tout cas, le public est là, donc c'est le critère qui nous permet de dire qu'effectivement, ça a marché.
Voilà, et puis au-delà du chiffre, je pense qu'on doit être à 1000 personnes à peu près, ou peut-être même un peu plus sur la journée. Ouais. Ce qui est important, il me semble, alors évidemment, je ne suis pas objectif, mais c'est vraiment la qualité. Je vois vraiment ici, je le vois par rapport à l'année dernière. Ici, j'ai fait des photos des tables. C'est plein de familles qui jouent ensemble. Je vois vraiment des enfants qui jouent avec leurs parents et qui ont l'air, à mon avis, vraiment de s'amuser, qui restent aux tables. Et ça pour moi, c'est bingo, c'est vraiment ça le but. Et j'entends plein de gens qui me disent « Ah ouais, c'est vrai, tiens, on va ressortir les jeux maintenant. » Voilà, ça peut permettre de semer une petite graine pour sensibiliser les gens par rapport à ça. Nous, c'est pour ça qu'on le fait, donc ça c'est gagné. Quoi.
Merci Olivier Grégoire.
Mais merci à toi.
Et à l'année prochaine.
Ah bah, j'espère bien. Et à dans 10 ans aussi.
Vous avez aimé ce podcast ? Alors appuyez sur la touche « Trop cool ». Vous n'avez pas aimé ce podcast ? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.